Océane, légende bretonne.
Et on fait connaissance avec une nouvelle intervenante aujourd'hui concernant ces légendes bretonnes. Justine Jouet est avec nous. Bonjour Justine.
Bonjour.
Alors, je vous présente quand même, vous êtes une vraie spécialiste hein, du monde des sorcières et c'est vraiment très sérieux, à la fois historienne, conteuse, conférencière, autrice également, hein, puisque vous venez de publier un ouvrage sur ce personnage d'ailleurs dont on parle de plus en plus du côté de Rochefort-en-Terre, à savoir Naya. On aura bien sûr l'occasion d'en parler. Mais d'abord, alors pour cet univers des sorcières et pour bien situer de quoi on parle, j'aimerais quand même que vous nous donniez votre définition à vous finalement de ce qu'est une sorcière, parce que c'est pas si évident que ça au final.
Alors c'est vrai que ce n'est pas du tout évident. Pour moi, il y a presque une définition par personne, puisqu'en fonction de notre culture, notre éducation, on y croit ou on n'y croit pas. Pour moi, une sorcière, c'est avant tout une femme qui est connectée à la nature, avec une sensibilité au niveau des plantes et puis au cycle de la lune, etc., avec parfois des capacités médiumniques, etc. Mais aussi, je crois véritablement qu'être une sorcière, loin des capacités, c'est aussi savoir se détacher des identités que nous donne la société en tant que femme, c'est-à-dire s'inventer, se réinventer au-delà du rôle d'épouse, de mère, etc., qu'on peut nous donner.
Bon, une définition très large, donc on le comprend, on va encore mieux comprendre hein, dans le fil de cette interview. Mais comment, d'abord, vous, précisément, vous en êtes arrivé à vous intéresser à cet univers de la sorcellerie?
Déjà, dès toute petite, j'ai été beaucoup soignée par des rebouteux et des magnétiseurs.
D'accord.
Et ça a fonctionné très bien. Et puis, je suis arrivée en Bretagne il y a 4 ans, dans le cadre d'un nouveau travail à Rochefort-en-Terre. Et puis, j'étais étudiante en master. À l'époque, je travaillais sur les herbiers polonais à la Renaissance. Et puis, pour diverses raisons, je ne pouvais plus me rendre en Pologne. Donc, j'ai dû changer de domaine de recherche. Mmh. Et j'en suis venue à m'intéresser à Naya.
Naya, la fameuse sorcière de Rochefort-en-Terre,
tout
dont on pourra reparler justement. Et alors, ces sorcières, vous avez un objectif quand même qui est assez clair. C'est le fait de les réhabiliter. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous?
Parce que c'est des personnes à qui on a fait des choses atroces, aussi bien les marquer au fer rouge que la torture ou les brûler vifs. Et on a voulu quelque part les faire taire. Or, aujourd'hui, on le sait par l'étude de ce que nous, historiens, on appelle les sources historiques, c'est-à-dire les manuscrits de l'époque. Mmh. On sait que c'est des procès expéditifs, et que c'était ni plus ni moins que des personnes comme vous et moi, avec des codes sociaux, disons, différents de l'époque, donc on en avait peur. Et c'est une folie qui a conduit à énormément de victimes, dont on a voulu faire taire la voix. Et aujourd'hui, d'en parler, de les réétudier, de les étudier tout court et de pouvoir en parler, ça leur redonne la voix qu'on leur a fait perdre.
Vous nous parlez de près de 500 000 hein, procès en sorcellerie à travers toute l'Europe. Comment vous expliquez finalement cette peur irrationnelle qu'on avait de toutes ces femmes à l'époque?
Je pense que, alors moi je parle d'un demi-million parce que on a le chiffre de 100 000 à peu près. Mais 100 000, c'est les personnes exécutées, ce ne sont pas celles qui ont été
jugées,
fer rouge, etc.
D'accord.
Et quelque part, quand on brûle quelqu'un, on brûle sa procédure. Donc aujourd'hui, je pense qu'un demi-million, voilà, ou alors peut-être 300 000, mais en tout cas beaucoup plus que 100 000. Mmh. Voilà, il y a une véritable volonté de les réhabiliter, oui.
Et cette peur irrationnelle de l'époque, c'était simplement finalement le fait d'avoir des personnes en marge, hein, c'est l'impression que ça donne finalement de la société.
Oui, tout à fait. En fait, quand on regarde au plus proche des victimes, c'était des guérisseurs ou des guérisseuses, des personnes qui étaient particulièrement âgées, c'est-à-dire que si une vieille femme n'avait pas de mari, forcément elle l'avait empoisonnée. Si elle en avait eu plusieurs, elle les avait également empoisonnées. Donc quand on croise l'histoire de la femme, de la religion et de la médecine, on arrive au stéréotype de la sorcière. Donc c'est une connaissance confisquée quelque part.
C'est vrai qu'à travers ce travail, j'ai l'impression quand même que vous vous battez finalement plus largement contre les préjugés, les jugements trop rapides, l'acceptation de la différence.
Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand, et c'est pour ça que moi, je tiens à mes conférences qui sont neutres et aussi à mes livres qui sont neutres, puisque le deuxième le sera aussi, parce que travailler sur un stéréotype demande de la neutralité pour ne pas en créer un autre. Et c'est pour ça que c'est important de voir comment le contexte a pu jouer. Par contre, quand il y a des accusés qui ont véritablement commis des crimes d'homicide ou d'autres faits plus graves, effectivement, là, il n'y a pas de réhabilitation possible. Il y a plutôt une explication à trouver dans ce comportement, mais pas de réhabilitation. Donc, on ne peut pas réhabiliter toutes les personnes. Voilà.
Bon, et pour celles, en tout cas, que vous souhaitez réhabiliter, il faut évidemment les connaître. Et pour ça, vous avez effectué nombreuses recherches, hein, évidemment, sur le sujet, notamment, pas seulement, mais notamment pendant vos études en master de recherche dans le Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours. Vous avez vraiment mené l'enquête. Est-ce que vous nous expliquez ce travail, globalement, que vous avez mené, même sur plusieurs années, en examinant ces procès en sorcellerie?
Oui, alors... Moi, ce qui a été compliqué, c'est que j'ai fait mon master en plein Covid.
Ouais.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les archives étaient fermées. Donc, ça a été particulièrement difficile d'arriver aux résultats auxquels je souhaitais arriver. Donc, finalement, je me suis beaucoup attardée sur Naya et puis sur d'autres procès. Naya, parce que les recherches étaient plus faciles. Numérisé, etc. Mais le travail que je n'ai pas pu faire du coup en master jusqu'au bout, je suis en train de le reprendre aujourd'hui.
D'accord. Et après, donc toutes vos recherches, vous parlez, on le disait, de plusieurs centaines, on va le dire comme ça, de milliers de sorcières ayant été exécutées en Europe. Mais est-ce que la Bretagne était particulièrement concernée par le phénomène?
Alors, personnellement, je n'ai pas trouvé, au vu de mes recherches, après je... Ça fait que véritablement 4 ans que j'enquête sur
Bien
le
sûr.
Sujet. Je n'ai pas trouvé de femme ou d'homme brûlé pour sorcellerie pour le moment. Mais j'ai entendu dire que Delancre, qui était un prêtre particulièrement connu dans le Pays Basque pour avoir brûlé des personnes, était passé par la Bretagne. Donc l'idée, c'est d'aller voir aussi, ça fera l'objet d'un autre travail de recherche, d'aller voir si effectivement... il aurait fait des victimes malheureuses dans le pays. Après, l'enquête que moi je fais, ça consiste véritablement à un travail d'enquête à la façon d'un policier, un petit peu à la Miss Marple ou Agatha Christie.
C'est vraiment ce
Christie,
qu'on ressent,
en fait,
Agatha Christie de la sorcellerie, c'est ça?
C'est ça. Pourquoi pas? Je suis une grande fan d'Agatha Christie. Donc, non, l'idée, c'est de retrouver les personnes, de savoir les mettre aux endroits où on les dit, et puis de véritablement mettre en face d'un fait une source historique. Mais ils sont acceptés parfois d'être dans le doute le plus complet.
Et pour revenir à la région, on peut dire quand même que la Bretagne est une terre de sorcières.
Oui, c'est incroyable. C'est véritablement ce qu'on me dit la plupart du temps, que la Bretagne, c'est connu pour les sorciers et la sorcellerie, etc. Et puis, même au quotidien, moi, je côtoie des sorcières, et puis... pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, mon boulanger me parlait d'une affaire de sorcellerie qu'il avait connue étant gamin. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable cette histoire. Pour ce qui est par exemple du travail des druides, moi je vous renverrai avec grand plaisir dans les travaux de Pascal Lamour qui a travaillé sur les druides et là on a affaire à un spécialiste parce qu'il est lui-même druide.
Voilà, comme quoi les sorciers, sorcières existent encore de nos jours et c'est ce qui est intéressant à découvrir dans le travail de Justine Jouet qui reviendra la semaine prochaine avec des exemples particuliers de sorcières bretonnes. Vous verrez que ce n'est pas non plus un monde exclusivement féminin. Contrairement aux idées reçues, encore une. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, avec Justine Jouet pour évoquer ce monde fabuleux et finalement assez méconnu des sorcières.